à ce nouvel épisode de Concrètement. Donc cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. À ma droite, donc Philippe Béraud, qui est Chief Security Advisor à la Direction Technique et Sécurité de Microsoft France.
Bonjour Pascal.
Bonjour Philippe.
Merci de m'accueillir à nouveau.
Oui, et puis à ma gauche, Daniel Pasquier, donc nouvel invité, PFE chez la Division Service de Microsoft France.
Voilà, part sur la partie sécurité.
Voilà, exactement.
Bonjour Pascal.
Sécurité. Bonjour Daniel. Et donc, vous allez tous les deux nous parler de Azure Key Vault, qui est un service récent.
De la plateforme Azure,
qui concerne la sécurité, mais le mieux, c'est de démarrer par quelques considérations sur le paysage de la sécurité.
Alors, peut-être dans le cloud. Partager quelques chiffres, mais très rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet de la présentation, parce qu'on va parler plutôt coffre de clés, puisque Key Vault, c'est comme traduction, c'est, en français, c'est coffre fort, exactement. Donc, peut-être. Des choses assez simples. Aujourd'hui, on est sur un rythme en termes de croissance de volume de données assez important. Ici, on mentionne 40% une source IDC. Bon, il suffit de considérer les nouveaux usages du cloud par rapport à l'Internet des objets, notamment pour se rendre compte qu'on est effectivement dans une croissance relativement importante qui va de pair à autre chiffre qui est donné avec de facto du coup des prévisions de l'ordre de 8,7 milliards de dollars en termes d'investissement donc source de Gartner. Je pense qu'on donnera la présentation, tu mettras
à disposition
la présentation,
donc
pour avoir tous les détails et toutes les références. Ouais. Bon, ce qui nous amène aujourd'hui, autre chiffre encore s'il fallait en citer, 70% d'investissements prévus cette année par rapport à des nouveaux projets qui auront une transcription sous forme de charge de travail dans le cloud, que ce soit au travers d'un compte de stockage ou des services, IaaS, PaaS, tels qu'on peut les offrir ou que d'autres peuvent les offrir. Dernier constat, peut-être pour aller très vite, aujourd'hui, dans notre environnement cloud, Azure, tout type d'objets confondus, on est aujourd'hui à 30 billions. Donc 30 billions, on n'est pas en américain, mais on est en français. Donc on parle bien de milliers de milliards d'objets.
30 000 milliards d'objets dans Azure.
Voilà. Donc on peut imaginer qu'il faut peut-être faire quelque chose en termes de peut-être protection. Mais peut-être, Daniel, tu veux nous dire quelque chose ?
Surtout que par rapport à ces données-là, on aura probablement des données qui seront plus ou moins confidentielles ou qui ont des caractères particuliers, donc qui nécessiteront une protection. Donc beaucoup de données nécessitent forcément de la protection aussi derrière. Alors la protection, on l'a de niveau. D'une part, on va essayer d'avoir des clés de type cryptographique pour pouvoir à la fois faire du chiffrement, pour garantir la confidentialité des données, mais aussi de la signature pour l'intégrité des données. Ce type de clés cryptographiques, il faudra les avoir à la fois pour les développeurs, pour qu'ils puissent tester dans leur environnement, donc des clés qui leur sont propres, uniques pour chaque application, mais aussi pour les applications dans le domaine de la production, avec une migration la plus transparente possible.
Et là, je vois que tu prends ta casquette de conseil en sécurité avec une séparation des rôles, par exemple.
Voilà, par exemple. Et donc, après, on va effectivement avoir des clés qui sont spécifiques pour chacune des applications. Alors, il faut aussi prendre soin de bien identifier, monitorer, suivre l'utilisation des clés. Il s'agit de savoir que les clés sont bien utilisées pour un usage normal, on va dire.
Oui, c'est pas tout de chiffrer avec la clé et d'être assuré, mais qu'est-ce qu'on fait de la clé ?
C'est ça.
Et comment on la protège ? Et comment
c'est ça,
on
puis qu'on soit en conformité avec la politique d'entreprise, de la sécurité.
Qui peut être déjà au départ le guide pour dire ce type de données, je m'autorise éventuellement à les mettre dans le cloud, mais à condition que ce qui renvoie
à la discussion. Ça permet de garantir et puis d'apporter également, d'être assuré sur l'usage qu'on fait des clés. Alors également, on imagine que plus on va utiliser, plus on va consommer de services et d'applications dans le cloud, et plus on aura également de secrets à protéger, et donc probablement l'utilisation de solutions comme
exemple,
Azure Key Vault.
La clé primaire d'un compte de stockage, la chaîne de connexion à une base de données SQL, des choses comme ça.
Voilà. Donc ces données à protéger, c'est un réel défi. Donc on peut effectivement voir ça sur la façon de protéger les données. Alors c'est un défi parce que par exemple pour une application SQL, on peut la protéger, une application SQL dans un IaaS, on peut la protéger avec un boîtier HSM. Par contre, en termes de performance ou de configuration, il y a un certain nombre de contraintes.
Un boîtier HSM qu'on laisserait chez soi, en fait.
Voilà, un hardware security module qu'on a dans l'infrastructure on-premise et qu'on va configurer pour pouvoir fonctionner avec notre application SQL.
Mais là, on a un peu de latence.
C'est ça, il y a un certain nombre de contraintes, en fait. D'une part, comme tu l'évoques, il y a des raisons de latence. L'accès à la clé privée étant on-premise, donc ça nécessite un petit peu de temps.
Même avant la latence, la connectivité, si on a un problème de connectivité.
Aussi, c'est vrai, c'est un élément important. L'autre aspect, c'est qu'il y a une problématique de coût. d'évolutivité aussi, hein, qu'il faut aussi prendre en compte pour pouvoir migrer vers de nouveaux algorithmes ou de nouvelles solutions.
Il faut maintenir, il faut provisionner, acheter tout ça, configurer, etc. Voilà.
Alors si on prend par exemple les frais, enfin la notion de coût par rapport à une solution avec un HSM on-premise, ça veut dire quelque part il faut pouvoir acheter, provisionner, passer une commande, revoir un petit peu le matériel disponible sur le marché, les fonctionnalités, et puis attendre la livraison réelle de l'HSM.
Ouais, plus la configuration, les cérémonies qui vont avec.
Exactement, tous les processus d'exploitation, les responsabilités et autres.
Ouais, et à qui on donne les cartes pour les admins, et on retombe sur les problèmes de ségrégation et rôle.
D'accord. Tout à fait, avec Azure Key Vault, c'est des choses qui, comme on va le voir, qui se font en quelques minutes, hein, donc c'est beaucoup plus intéressant. L'évolutivité de la solution aussi, hein, qui permet ainsi d'acquérir des nouveaux HSM avec des nouveaux types d'algorithmes, par exemple des courbes elliptiques ou autres. Et puis les latences dont tu parlais, effectivement, puisque là, on va voir le boîtier HSM stocké dans Azure, donc avec une vitesse d'accès beaucoup plus performante que si on l'avait on-premise.
D'accord. Et puis peut-être aussi par rapport à des workloads, tu mentionnais le cas de SQL Server qui a cette capacité quand on est dans du IaaS, mais peut-être si on a des solutions SaaS, type Office 365, mais d'autres aussi, peut-être pas forcément la capacité d'avoir ce type de connexion.
Quoi. Effectivement, ouais, tout à fait. Donc là, c'est beaucoup plus difficile quand on a une application en SaaS de savoir qui a accès à la clé, de faire le suivi de l'usage des clés quoi, derrière. Et puis des fois, on se retrouve avec des solutions où on a besoin de chiffrer des données, mais la clé, alors des fois les données sont carrément en clair. Bon, après, on peut chercher à chiffrer les données avec une clé, mais après la question se pose, où cette clé, je la stocke. Donc il y a toujours quelque part à la source une problématique de sécurité. Azure Key Vault va nous permettre d'adresser ce type de problématique. Alors, dans Azure Key Vault, pour résumer, bien c'est quand même un moyen qui est relativement facile de mise en œuvre. On le verra d'ailleurs à l'occasion de la démo. C'est un moyen qui est rentable, puisqu'au niveau du coût, c'est évidemment optimisé. C'est donc un moyen rentable de pouvoir conserver une sauvegarde également des clés privées, donc des secrets, des autres secrets. Et puis, les applications dans le cloud peuvent y accéder de façon complètement sécurisée, donc à l'aide d'un boîtier HSM, Hardware Security Module.
Donc, qui est dans le cloud.
Stocké dans le cloud. Effectivement, comme on le voit sur la diapositive, Azure Key Vault, quelque part, est un boîtier HSM transversal qui s'applique pour le IaaS, le PaaS et le SaaS.
Donc, je comprends bien, si je résume, nos secrets, clés privées, compte mot de passe ou ce genre de choses-là, ou clés d'accès à stockage, vont se trouver stockés chez Microsoft dans les data centers, dans des boîtiers, dans des services.
Dans du matériel sécurisé HSM avec un certain nombre de garanties en termes de suivi sur l'utilisation des clés. Et deux possibilités, soit on va générer carrément la biclé dans le HSM de Azure Key Vault, ou alors on peut l'importer, c'est-à-dire qu'on peut avoir notre boîtier HSM en local et on importe les clés vers le boîtier HSM dans Azure Key Vault.
Donc, avec deux versions. Donc tu veux qu'on regarde ça un peu plus précisément. Donc,
Il faut
sur le fonctionnement. Donc concrétisons alors.
Allez, passons sur la machine de démo.
Concrètement, c'est ça Pascal, hein, pour reprendre. Donc en termes d'utilisation de Key Vault, donc c'est un service de la plateforme Azure, Pascal. Donc en termes de configuration, c'est une configuration qui va passer essentiellement sous forme de commandlet PowerShell. Donc ça suppose en fait de disposer sur sa machine d'Azure PowerShell. Ça suppose de disposer d'Azure PowerShell dans une version. Alors, selon la version, tu sais qu'on a changé en version à partir de 1, il y a un certain nombre de commandes qui ont changé. On n'a plus à spécifier exclusivement qu'on veut basculer dans le mode de Resource Manager. En l'occurrence, ici, je suis dans une version 1.0.1, donc une version, la dernière disponible en l'occurrence, qui peut avoir une incidence un petit peu sur les commandes. Donc, en tout cas, les commandes qu'on va dérouler ensemble sont les commandes de dernière disponible, donc il y a quelques incidences entre avoir le Azure ARM quelque chose ou pas l'avoir. Donc c'est à ce niveau-là que.
On est en mode ARM, tu utilises des commandes ARM.
On est exactement dans le nouveau mode en fait du Resource Manager. Donc on va commencer peut-être par s'authentifier. Donc je vais m'authentifier, c'est là où personne ne regarde.
Par politesse, on a tourné la tête ailleurs.
J'ai
tapé trop vite. Tu vois.
Donc au passage, on voit que si on avait du multifactor authentication, on aurait l'appel voilà. à un ami, le téléphone, etc.
Exactement, on va finir par... Voilà, donc nous voilà. Alors, ensuite, dans la pratique, on peut, si on a plusieurs souscriptions, donc si on a qu'une seule souscription, le problème ne se pose pas. Si on en a plusieurs, c'est mon cas en l'occurrence. Ça suppose de choisir son abonnement. Donc c'est la commande typiquement get Azure ARM souscription qui va lister les différentes souscriptions, récupérer l'identifieur de souscription. Bon, en l'occurrence, on va passer directement sur... Allez, voilà, d'ailleurs. Lister, je ne sais pas si j'ai la main, donc en l'occurrence, voilà les différentes souscriptions. Donc nous, on va aller utiliser la souscription MSDN, en l'occurrence, celle-ci.
On fait F8 pour exécuter la ligne.
On va exécuter la ligne.
Donc tu sélectionnes ton abonnement.
Voilà, et on va rentrer concrètement dans le vif du sujet. C'est ce qui nous aura rendu la main.
C'est voilà. Le cloud est un peu lent ce matin.
Le cloud est un peu lent. Donc, qui dit ARM dit groupe de ressources. Hein. Donc, on va peut-être commencer par créer un groupe de ressources. On va le mettre en North Europe.
Donc, à Dublin. Géographie américaine.
Donc, le voilà. Et puis, on va simplement créer un coffre-fort Pascal. Donc, on va l'appeler concrètement KV dans ce groupe de ressources, toujours même emplacement. Donc, voilà la ligne de commande. Alors, point important, Daniel mentionnait la capacité de rattacher ce coffre de clés à l'infrastructure HSM que l'on propose derrière KeyVault. Alors, c'est une option. Donc, pour l'avoir, c'est le SKU Premium. Si on ne précise pas le SKU Premium, on crée un coffre de clés logiciel, ce qui n'empêche que, y compris dans ce cas de figure, alors on n'aura pas la capacité d'aller directement créer des clés ou faire une importation de clés pour les mettre dans l'infrastructure HSM Cloud, mais on aura la possibilité quand même d'avoir des clés qui se trouvent dans une chaîne de hiérarchie de clés, dans des chiffrements successifs, protégées par une clé ultime qui se trouve en fait dans l'infrastructure HSM. Donc là, soyons fous, prenons la version complète qui nous permettra d'illustrer un peu tout ça.
Je suppose qu'il y a une différence au niveau de la facturation.
Oui, tu supposes tout à fait bien. Donc en l'occurrence, donc voilà la ligne de commande et le résultat. Donc le coffre-fort, à l'arrivée... est exposé au travers d'une URI, donc c'est concrètement KV, le nom de notre coffre-fort, .vault.azure.net. Derrière, on propose à la fois au travers de ce qu'on illustre ici, des commandes PowerShell pour pouvoir interagir avec, mais d'un point de vue programmeur, on a toute une API REST qui, du contenu de l'URI, laisse à penser qu'en REST, on va pouvoir réaliser toutes les opérations que l'on souhaite en fonction de ce qui est permis. On voit au passage, donc on est bien dans la SKU Premium, on voit qu'on a quelques options, Enable for Deployment, Template Deployment, Disk Encryption. Tu as eu l'occasion, il me semble, dans l'épisode 7 avec Arnaud, mon collègue Arnaud, de montrer le chiffrement de disque Azure. C'est directement une capacité qui est couplée avec le coffre-fort. Donc ça supposerait d'activer ici, donc d'avoir le disque Encryption qui soit activé pour avoir cette capacité. L'Enable for Deployment, c'est typiquement la capacité de pouvoir, dans une VM que l'on va déployer, pouvoir injecter un certificat avec sa clé privée, si par exemple la VM va être destinée à faire office de serveur web, pouvoir en fait avoir un canal SSL TLS sur la base du certificat, donc avoir en fait cette injection. Ce que l'on voit ensuite, c'est qu'on a des politiques d'accès. Donc la politique d'accès aujourd'hui, elle est définie aujourd'hui par rapport à la configuration, par rapport à mon compte. Donc je suis l'administrateur et j'ai un certain nombre de droits qui me sont donnés, à la fois par rapport à des clés et des secrets, puisqu'on peut gérer, on a parlé de biclés RSA typiquement, soft ou HSM, ou de secrets qui peuvent être des mots de passe, des chaînes de connexion SQL. Donc là, j'ai potentiellement des capacités
donc,
relativement
permission,
larges.
Donc on sent venir un modèle de type RBAC.
Tout à fait, ça, ne serait-ce que par rapport aux opérations qui sont listées, tu sens effectivement venir ce genre de choses. Donc commençons peut-être par un secret. Donc si j'ai typiquement un secret de type un mot de passe que je souhaite stocker, donc ce mot de passe, on va le formater, le convertir en une chaîne sécurisée pour pouvoir ensuite l'injecter. Voilà, c'est fait. Et on va, dans notre coffre-fort, stocker ce secret avec un nom de référence qui est SQL Password. Ce qui fait que plus tard, dans mon code, mon développeur pourra ensuite dire je souhaite obtenir la valeur de SQL Password en référençant l'URI, et ça sera directement en fait injecté en tant que tel. Donc voilà, la commande a été exécutée. Alors, point intéressant, donc c'est stocké. Voilà en fait l'URI avec laquelle je vais pouvoir référencer mon password. Donc jusqu'à SQL Password. Et puis ensuite, on voit qu'on a quelque chose qui ressemble à un identifiant. C'est la version courante en fait du password. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux mettre à jour dans le temps. Donc imaginez aussi sur des secrets, on aura la même chose sur les clés, je peux faire du rollover dans le temps, et toutes les versions successives peuvent être conservées, et du coup, par code, je peux soit, si je ne précise pas la version, avoir la dernière version disponible, soit si je précise une version particulière, référencer une version, cette version particulière. Ce qui peut être typiquement, donc on l'a pour les secrets, c'est quelque chose qui est typiquement intéressant pour les clés en l'occurrence, parce que c'est quelque chose que l'on est amené à faire de façon assez fréquente. Voyons maintenant du coup pour les clés, si je fais ici, je vais demander de créer une clé RSA, et je vais demander de la générer, et la destination ici je dis software. Donc je suis dans un abonnement premium qui permettrait de le faire au niveau HSM. Là, je demande de le faire au niveau soft. Bon, c'est mon choix pour l'illustration, mais n'empêche que, comme je le disais, la clé sera protégée dans une hiérarchie de chiffrement successif de clés jusqu'à une clé ultime en fait, qui se trouve dans l'infrastructure HSM. Donc, créons cette clé. Ça va être un petit peu plus long comme opération. Voilà, et voilà la clé qui a été générée. Donc, c'est le seul moment où on l'a. Ensuite, l'infrastructure ne permet pas de réobtenir la valeur. On peut réaliser ensuite des opérations qui sont ici, par défaut, les opérations qui ont été listées ici, donc chiffrement, déchiffrement, signature, vérification, wrappage, dévrappage, si on utilise par exemple une clé symétrique de chiffrement, comme tu le mentionnais, pour aller protéger les gros volumes de données, on pourra utiliser ensuite cette clé pour aller protéger la clé symétrique de chiffrement. Donc, mais c'est le seul moment où on l'a. Ensuite, on pourra simplement référencer l'URI de cette clé pour réaliser une opération donnée. Mais on n'aura plus jamais en fait sa valeur. Alors, ceci prend effectivement aussi tout son sens quand je veux injecter une biclé dans un boîtier HSM. Le propre de ce choix-là, c'est de jamais pouvoir la récupérer, de garantir qu'on ne pourra plus jamais l'exporter, hormis la situation que tu mentionnais, Daniel, qui est de pouvoir, entre des infrastructures de boîtiers HSM, celles qu'on peut déployer en local et le cloud, donc ça suppose d'avoir une compatibilité. Donc notre infrastructure repose sur des HSM Thales, donc ça suppose dans ce scénario-là que ça soit également un HSM Thales, typiquement de l'IAM, par exemple NCypher. Et dans l'architecture Thales, on a une notion de monde de sécurité qui permet d'avoir en fait plusieurs boîtiers HSM, mais de faire en sorte que potentiellement une opération puisse être réalisée par l'un de ces boîtiers, typiquement intéressant dans une infrastructure cloud, sans pour autant que donc ça circule entre ces boîtiers, mais ça ne peut jamais être exporté. Ce qu'on appelle le monde de sécurité, et dans l'opération, ce qu'on appelle le BIOC, le Bring Your Own Key, c'est une opération de transcodage de monde de sécurité, le monde de sécurité que l'on a à demeure versus le monde de sécurité qui est celui qui est instancié dans nos data centers. Et cette opération de transcodage, en fait, a été réalisée par Thales de manière à garantir le maximum de confiance dans les opérations et la non-capacité à qui que ce soit de pouvoir intercepter à quelque moment que ce soit dans cette opération de transfert entre deux mondes de sécurité les clés en question. On va faire une version beaucoup plus simple. On va faire un PFX qui est protégé par un mot de passe. Ici, le mot de passe, c'est simplement password 1. Donc, on va faire la même opération que tout à l'heure. Et puis là, je vais demander d'ajouter une clé. Je vais demander de l'ajouter. Alors, en destination, plus on est plus. Donc là, c'est la source, c'est un PFX. Et la destination, c'est plus software. Cette fois, c'est HSM. Voilà, donc on retrouve bien le chemin. Et puis pareil pour notre password pour récupérer l'information. On a également le même type d'opération. Voilà. Alors ça, c'est les opérations vraiment de base. Alors j'ai mentionné ici les commandes pour supprimer, mais on ne va pas le supprimer tout de suite parce qu'on en a besoin. Donc Daniel, tu citais le cas de figure, par exemple, d'une application qui, typiquement, où on se citait ensemble, d'une application qui, par exemple, a besoin d'accéder à un compte de stockage Azure. Donc typiquement, elle va avoir besoin de la clé primaire d'accès pour aller attaquer les données. La même application qui peut avoir besoin d'un password pour aller se connecter à quelque chose. La même application qui va utiliser SQL Server qui a besoin d'une chaîne de connexion. Donc typiquement, comment on peut donner des droits à cette application? On a vu qu'on avait une politique d'accès liée à des personnes, donc on peut, par rapport à tout compte Azure Active Directory. Donc ce que je n'avais pas mentionné, c'est que c'est Azure Active Directory qui assure les capacités d'authentification dans ce cadre-là et qui permet d'obtenir en fait un jeton d'accès hôte au coffre-fort Azure Key Vault. Donc ça suppose, dans ce cadre-là, de donner des droits à l'application. Donc il faut que l'application soit une application qui soit enregistrée dans Azure Active Directory, donc ça tombe bien. Donc toujours dans notre volonté d'aller vite, j'en avais pré-créé une, Key Vault, et on a en fait un identificateur de l'application, un identifiant de l'application, et vous imaginez tous les deux qu'il va falloir quelque part utiliser cet identifiant pour se référencer et ensuite de donner des droits. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence par D5 qui se termine par F5. Si on revient derrière à l'autre petit script, donc voilà en fait notre principal de sécurité qui est celui de l'application. Donc pour donner des droits, on va modifier la politique d'accès au coffre-fort. C'est une commande qui est set Azure RM Key Vault Access Policy. Notre coffre-fort, c'est bien concrètement. C'est bien. Et on veut donner des droits à un service principal. Donc dans le monde Microsoft, voilà. Le principal de service, c'est bien l'objet à qui on peut conférer des permissions. Et comme on a des clés et des secrets, on peut préciser à la fois des permissions vis-à-vis de clés et des permissions vis-à-vis de secrets. Donc typiquement, je voudrais que mon application, elle sache utiliser les clés qui se trouvent dans ce coffre-fort pour faire des opérations de chiffrement, de déchiffrement et d'opérations de signature.
Donc en l'occurrence, ce sera toutes les clés qui se trouvent dans le vault, dans le coffre-fort.
Donc ici, c'est toutes les clés qui se trouvent dans ce coffre-fort. Et de la même façon, pour un secret, typiquement, le but, c'est de pouvoir le relire. Si j'ai stocké de façon sécurisée ma chaîne de connexion SQL, ce que je veux, c'est pouvoir, en fait, dans mon application, la récupérer. Donc, exécutons ces commandes. Donc, la suivante. Et puis, si on va aller voir le résultat, on va demander à lister dumper comme on l'avait tout à l'heure. Souvenez-vous, quand on a créé le coffre-fort, on avait l'état de... Et puis on avait une politique où j'avais plein de choses me concernant en termes de droit. Faisons la même chose ici. Si les dieux du réseau sont avec nous, on parlait de latence. Était-ce prémonitoire? Non, le voilà. Merveilleux. Et là, c'est bien mon application, donc je suis bien vis-à-vis d'une application, et c'est cette application qui a les droits, les permissions que l'on vient de préciser. Après, juste peut-être pour conclure sur cette version, si on était sur code, donc il y a des petits exemples de mise en œuvre qui peuvent être téléchargés, on donnera les liens à Pascal. Juste pour illustrer, vu du développeur, la complexité importante, donc... comment je vais réutiliser ça, d'après vous? Simplement avec les URI.
Ce qui est intéressant, c'est que là, avec l'URI, on a juste l'usage de la clé, mais pas accès à la clé en tant que telle.
Voilà, donc si je vais voir le fichier de config, typiquement. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la référence. Donc ici, c'est un autre coffre-fort, parce que... celui qu'on utilisait jusque-là, on l'a créé en ligne, mais ça, c'est un autre coffre-fort qui existe dans mon abonnement. Ouais. Et puis, là, ce que l'on trouve, c'est, ce sont les identifiants qui permettent à cette application d'aller s'authentifier auprès d'Azure Active Directory. Alors là, on est dans une version où on n'est pas encore optimal. Après, ça serait pour les temps de la démo et des explications, on s'en est tenu à cette version, parce que là, quelque part, le secret client, ça peut être aussi s'apparenter à un mot de passe. Donc, quelque part, je vois ta mimique d'esprit chagrin, qui me dit, attends, tu es en train de stocker quelque part, d'utiliser un coffre-fort pour aller stocker les secrets, puis tu as besoin d'un mot de passe. On peut aller plus loin, c'est-à-dire que Azure Active Directory a deux modes d'authentification pour une application, typiquement un mode de CIPLA, mais aussi un mode basé sur des certificats. Et auquel cas, si cette application, pour boucler la boucle et laisser imaginer un peu la suite de l'histoire, si l'application en question était déployée dans une machine virtuelle, si on reboucle, on pourrait utiliser les capacités de déploiement au niveau de la machine virtuelle pour aller injecter un certificat, le certificat en question étant celui qui permet d'aller s'authentifier auprès d'Azure Active Directory vis-à-vis de l'application, et auquel cas, ici, j'aurais simplement à la place du secret client, j'aurais le thumbprint, enfin l'empreinte du certificat. Et là, je suis dans une version optimale parce que dans le cycle de vie, peut-être tu vas nous en dire un mot rapidement après, j'ai éliminé en fait tout ce qui est password ou secret. Je suis dans un mécanisme où je repose en fait que sur des clés de chiffrement.
Super. La démo parfaite, on a bien compris comment ça se passe. Maintenant, quelques scénarios d'usage.
Voilà, pratique. L'usage de Keyvault, effectivement, va s'appliquer à trois scénarios principaux. Hein. D'une part, la possibilité pour les applications ou pour nos clients de pouvoir sécuriser leur application métier à l'aide de clés de chiffrement. Donc voilà un élément intéressant pour ce qui est de la confidentialité des données et également l'intégrité des données dans le cadre de la signature. Pour la partie SQL, la possibilité de gérer des clés pour les serveurs SQL à la fois avoir la possibilité d'avoir ces clés pour un serveur SQL on-premise ou dans Azure.
Voilà. Et dans Azure, alors ce qui est intéressant, il y a d'ailleurs eu un blog, je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière, où on pouvait le faire avec un certain nombre d'opérations en PowerShell. Mais maintenant, dans le template ARM de SQL Server, il y a directement une rubrique maintenant qui est Azure Key Vault. Et à ce niveau-là, on peut préciser directement les URL du coffre pour réaliser en fait tout ça de façon transparente.
Par exemple, du TDE qu'on cite ici.
Voilà, c'est complètement transparent maintenant. C'est simplement une chaîne. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait eu quelques articles sur comment configurer SQL Server. Maintenant, on est dans le degré de complexité que j'illustrais juste avant, qui est simplement je précise l'URL et c'est terminé.
Très bien. Et puis enfin, les machines virtuelles, la possibilité de chiffrer les certificats utilisés pour les machines virtuelles dans Azure. Donc voilà encore un élément qui peut apporter beaucoup de sécurité pour un environnement.
Et en cycle de vie, Daniel, parce que comme tu étais un petit peu chagrin tout à l'heure, donc sur le cycle de vie de cette gestion des clés, on peut avoir une vraie ségrégation, là, comme tu veux nous le montrer sur la diapo.
Alors, effectivement, on peut avoir, si le client en a besoin, s'il le souhaite, si sa politique de sécurité l'impose, on peut avoir effectivement une ségrégation des rôles. On va retrouver trois rôles principaux. Le premier étant sur le rôle de responsable de la sécurité. Alors lui, cette personne-là, va générer d'une part le coffre-fort, un peu comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la démo. Il va ajouter les clés et les secrets à l'intérieur du coffre-fort.
Comme je l'ai illustré, en fait.
Voilà, c'est exactement ça. Tu as joué le rôle du responsable de la sécurité.
Ça va.
Ce qui est logique. Hein.
Ce qui est logique.
Il va accorder également les permissions aux applications pour que l'application
fait
aussi, tout à fait. Alors après, les applications pourront ainsi chiffrer, déchiffrer, signer,
désemballer.
Et puis, il peut également activer la journalisation des usages.
D'accord. Et ça sera, j'imagine, pour le rôle final de l'auditeur.
Exactement. Après, on passe au rôle suivant, et qui est séquentiel quelque part. Hein. Donc, on a le développeur ou l'administrateur IT qui, lui, a une application qu'il souhaite sécuriser et va pouvoir ainsi utiliser l'URI qu'on lui a fourni pour pouvoir le spécifier au niveau de l'application et ainsi avoir la possibilité de chiffrer les données et accéder à l'usage de la clé, mais pas à la clé en tant que telle. D'accord, donc à tout moment, on peut quelque part révoquer son usage.
Voilà, ou obtenir le secret, mais en fait, il l'aura dans l'application, mais lui…
Voilà, il n'y a rien de nouveau, et à tout moment, on peut éventuellement
Par contre, on élimine les mots de passe que l'on trouve dans les scripts pour générer des machines, pareil pour les applications et autres. Donc, je pense qu'on a peut-être fait les progrès.
Dans le concret, C'est pas toujours le cas. Et puis enfin, on a un troisième rôle, celui de l'auditeur, qui permet ainsi de faire une revue régulière, voire de déclencher automatiquement des alertes sur un usage illicite ou anormal de clés. Donc on peut faire ce suivi bien précis et s'assurer qu'on est bien en adéquation avec la politique de sécurité de l'organisation. Je crois même qu'on peut coupler avec des SIEM et voilà, tout un tas d'éléments derrière.
Et là, la boucle est bouclée.
Voilà, en termes de conformité, nos amis RSSI vont être satisfaits.
Tout à fait.
Donc justement, en termes de... Bon, je pense que sur les grands items, on va peut-être aller vite si on laisse derrière les diapos à disposition. Donc une sécurité accrue, je pense que tout le monde aura compris pourquoi. La protection des clés, à la fois parce que les clés sont dans un boîtier HSM ou parce qu'on a un chiffrement qui fait qu'on se ramène en fait au boîtier HSM. Si on a une configuration avec un SKU Premium, eh bien, ça permet de disposer directement d'une infrastructure qui a une certification FIP 140-2 et critères communs L4 augmenté. Donc, ce qui aussi est de nature à rassurer la surveillance telle que tu le mentionnais, Daniel, avec le rôle d'auditeur. Dans les autres caractéristiques, le provisioning, je pense qu'on a fait en sorte d'avoir un script pré-câblé, mais vous avez pu voir que c'est rapide en fait, de créer.
Exactement, on l'avait vu également avec Arnaud, c'était vraiment
très simple. La gestion est un peu plus simple et centralisée, on est complètement en contrôle, et puis on évoquait le bioc en termes de migration. Alors, on illustrait la version PFX. Bon, qui est, quelque part n'a pas abouti parce que j'avais dû mettre mes moufles avec la température ce matin pour saisir le password.
Température négative.
Comme quoi, il faut des fois tout rechecker, mais on l'a pas fait. Dans acte. Mais ça fonctionne. Et puis, dans la partie bioc, cette capacité d'ingestion. Et puis, sur l'expérience derrière, peut-être Pascal, pour conclure, on a à la fois, tout est local à l'infrastructure Azure, donc par rapport à tous les usages qui peuvent être faits à la fois au travers de VM, à la fois au travers de templates ARM type SQL Server, tel qu'on le mentionnait, du développement applicatif dans ce contexte. Une infrastructure HSM redondée, on parlait de réseau finalement de boîtier HSM, de monde de sécurité, une disponibilité sur les différentes plaques géographiques avec une ségrégation aussi pour les plaques, donc histoire de rassurer aussi pour faire en sorte qu'on ne puisse pas transférer des données d'une géographie à une autre simplement. Et puis par rapport à toutes les dispositions, bien sûr qu'il y a une tarification, mais il y a une tarification que l'on souhaite la plus pertinente et la plus satisfaisante possible pour nos clients et partenaires. T'sais.
Puis la cerise sur le gâteau, c'est que ces fameux boîtiers HSM sont français.
Eh oui.
Et oui,
comme tu l'as dit tout à l'heure rapidement en disant que c'était du Thales.
Exactement.
Pour aller plus loin, donc quelques pointeurs qu'on va laisser découvrir dans les PowerPoint et sous la vidéo sur le site pour essayer tout ça dans de bonnes conditions. J'ai plus qu'à vous remercier, messieurs.
Ah, c'est nous qui te remercions.
Merci, Pascal.
Hop, pour cet épisode fort intéressant. Vous retrouvez tous les épisodes sur aka.ms/concrètement. Et puis, on se retrouvera à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.
Très volontiers. Merci à tous. Hein.